Je n'ai jamais été l'homme d'une idée fixe et je me suis toujours méfié de ceux qui le sont.
Jean-Claude Carrière.
C'est-à-dire qui ne suivent toute leur vie qu'une seule piste, qu'une seule idée. La vie dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes jetés, est dispersé, est éparpillé, est divers et contradictoire. Tous les jours, nous en avons la preuve si nous savons ouvrir les yeux, les oreilles.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis né, comme vous, je pense, sur une planète qui est là pour satisfaire notre curiosité. Il y a énormément de choses à découvrir. Si nous étions nés sur Mars, il y aurait beaucoup moins de choses. Imaginez que nous allions passer un week-end sur Mars. Quel ennui! Au bout de 2 heures, nous n'aurions qu'un désir, c'est de rentrer ici. Et cette planète est inépuisable et nous réserve chaque jour des surprises.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le mot désordre, qui pour certains évoque un cauchemar domestique, me convient. Je dirais même qu'il me rassure. Car tout ordre m'effraie. Certains disent que ce mot me va bien, que j'ai sautillé toute ma vie d'une chose à l'autre. Si j'existe, c'est probablement dans ces va-et-vient, dans ce désordre. Je dis souvent, pour rire, que je me contente de beaucoup, que pour faire une chose, il faut en faire une autre, que j'ai toujours tenté de joindre l'agréable à l'agréable, car le savoir, car le travail peuvent être agréables, autant que le plaisir déclaré. Je dis aussi, sans en être vraiment certain, que l'on peut tout apprendre, tout comprendre et tout dire à tous, à condition de savoir aussi oublier. On m'a dit que ma vie manquait de concentration, d'un point fixe, qu'elle partait dans tous les sens. Ce n'est pas impossible. Elle est ce qu'elle a été, ce qu'elle est encore. Je ne l'ai ni planifiée, ni contrainte, ni contrariée. Je me suis toujours laissé porter, ici et là, par ce qui m'était proposé. Et j'ai rencontré plus de chemins que de portes fermées. Cet homme qui aime tant le désordre aime aussi raconter des histoires. Il est écrivain, scénariste, metteur en scène, parolier, traducteur. Amoureux des arts, des livres et des mots, il est imprégné de culture orientale, adepte du bouddhisme et partisan du gai savoir. Il a collaboré avec les plus grands, Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, Milos Forman, Louis Malle, Peter Brook, entre autres, et travaille sans relâche depuis des années au rayonnement du patrimoine littéraire mondial. Auteur de la célèbre pièce « La controverse de Valladolid », on lui doit aussi les adaptations de « L'insoutenable légèreté de l'être », « Des liaisons dangereuses », de « Cyrano de Bergerac » et dernièrement de « Singh et Sabour », « Pierre de patience », le très beau roman d'Atik Raimi. L'année dernière, Hollywood lui a décerné un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais cela ne l'a pas arrêté pour autant. Il écrit toujours quotidiennement, il continue d'apprendre, de transmettre et d'aider ceux qui partagent son goût de la fiction. Ce soir, il est à mes côtés, c'est un immense honneur et un plaisir. Bonsoir Jean-Claude Carrière.
Bonsoir.
Ensemble, nous allons parcourir vos livres, vos souvenirs et les textes qui vous sont chers, votre bibliothèque, un petit bout. Dans le désordre, il y aura le poète persan Rumi, la japonaise Sei Shonagon, mais aussi Rousseau, Chateaubriand, tous ceux qui composent votre bibliothèque idéale. Vous êtes né à Colombières-sur-Orbe, un petit village de l'Hérault, dans une maison sans eau courante, sans téléphone et sans livres. Aujourd'hui, vous vivez au milieu des livres. Et vous gardez de cette enfance un souvenir heureux. Vous l'évoquez dans votre ouvrage « Le vin bourru », mais aussi dans « Désordre », publié en 2012. C'est à vous.
Ce fut une enfance proche de la terre et des pierres. Proche des herbes et des arbres, une enfance rustique, robuste et pourtant studieuse. Avec des courses dans la montagne, du lait de chèvre, des coquelicots, des oiseaux piégés, des pêches interdites dans la rivière, une enfance enveloppé dans des bruits d'insectes qui se sont singulièrement raréfiés et même, pour certains comme les grillons, perdus. J'étais le seul enfant de la famille, un garçon, et mon père, tout naturellement, le plus tôt possible, m'a transmis son savoir-faire, formation directe. J'étais destiné à prendre la suite sur une longue liste de cultivateurs, à travailler durement la très modeste propriété qui était la nôtre, vignes, châtaigniers, fraisiers, quelques arbres fruitiers. Encore aujourd'hui, je peux le prouver, je sais greffer un arbre, piocher, sarcler, tailler la vigne, élever un mur en pierre sèche et, comme je le dis souvent, je suis sans doute le seul auteur français à savoir labourer avec un cheval. À condition, bien entendu, de trouver un cheval qui en soit encore capable. J'ai pu conserver la maison où je suis né, en haut du village. Ma première femme, Nicole Chanin, aujourd'hui décédée, l'avait très intelligemment aménagée. Ma seconde femme, Nahal Tadjadod, iranienne d'origine, l'a immédiatement adoptée et a poursuivi les travaux. Grâce à elle, nous y passons tout l'été, nous y travaillons, nous y recevons des amis. Luttant contre un sentiment persistant d'exil, bien qu'elle puisse retourner en Iran, ce que nous faisons souvent avec notre fille, elle dit qu'elle ne reconnaît plus son pays. Nahal assure qu'elle trouve dans ce village et dans cette maison où je suis venu au jour une stabilité, quelque chose de solide, de rassurant, une permanence, un rapport très établi, très fort, avec une terre, avec une montagne, des arbres qui étaient là avant ma naissance, des ruisseaux qui coulent l'hiver et qui se dessèchent l'été, depuis toujours. Mes ancêtres sont devenus les siens. Une nuit, dans le jardin, elle a rencontré un sanglier qui cherchait sans doute quelques racines ou un peu d'eau. Elle en est revenue émerveillée. « Tout est là, dit-elle, comme hier, et peut-être même comme demain. Jamais je ne pourrai dire ça de ma vie. » Je tente de préserver ce lien pour Chiara, la fille que nous avons eue avec Nahal. Quand elle est née, j'ai planté dans le jardin un arbre qui sera son jumeau pour le reste de sa vie, un amandier. Planter un arbre à chaque naissance est une tradition dans le village, signe d'une relation fraternelle entre le végétal et nous. Ma première fille, Iris, avait eu droit à un noyer, comme moi. Chiara a maintenant 13 ans. Depuis les premiers mois de sa vie, elle vient à Colombières, lui donner un endroit sur la terre, un contact, un recours. Comme pour demander secours un jour, au cas où.
Très vite, vous vous passionnez pour les romans d'aventure et vous découvrez les grands auteurs qui deviennent vos guides. Vous admirez Cervantes, Shakespeare et surtout Balzac, dont vous dites d'ailleurs que s'il avait vécu à notre époque, il aurait été le plus grand scénariste de toute l'histoire du cinéma. Et puis il y a Chateaubriand, qui vous amuse. Dans ses mémoires d'outre-tombe, il signe des portraits pleins d'ironie. Prenons par exemple le duc de Rohan Chabot, cardinal. Le duc de Rohan était fort joli. Il roucoulait la romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé, sa pieuse chevelure éprouvée au fer avait une élégance de martyr. Il prêchait à la brune dans des oratoires devant des dévotes ayant soin, à l'aide de deux ou trois bougies artistement placées, d'éclairer en demi-teinte comme un tableau son visage pâle. Il chantait la préface à faire pleurer. Il n'allait point, comme saint Paul, avec une parole rude, mais avec une parole émiellée de cet abaissement adorable qui consacrait un Chabot à Dieu, tout de même qu'un simple desservant de paroisse. Guérin faisait le portrait de l'abbé Duc, lui adressait un jour des compliments sur sa figure. L'humble confesseur lui répondit « Si vous m'aviez vu priant. » Jean-Claude Carrière, il y a un homme avec qui vous avez eu la chance de discuter, c'est Jean-Jacques Rousseau. Grand lecteur de ses rêveries, vous avez eu une conversation avec l'auteur du Contrat social dont voici un court extrait.
Nous allons prendre dans vos rêveries votre cinquième promenade et nous allons en lire ensemble une page comme si nous étions tous les deux assis en fin de journée au bord du lac. Vous vous rappelez ?
Je sentais un plaisir singulier à voir les flots se briser à mes pieds. Je m'en faisais l'image du tumulte du monde et de la paix de mon habitation.
En vous lisant dans ces moments-là, j'ai l'impression que soudain vos phrases s'allongent, s'étirent. Multiplie les incises, les points-virgules, luttant de toute leur force contre le temps, comme si vous hésitiez à les achever, comme si elle voulait prolonger, aussi longtemps qu'il est possible, les sentiments qu'elle dévoile, et qui pourtant sont passagers.
J'ai toujours aimé l'eau passionnément.
Je commence.
D'accord.
Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac dans quelque asile caché.
Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu.
Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux.
Suppléait au mouvement que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissaient quelques
faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde, dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher.
Au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort.
Ne disons plus rien.
Rien n'est plus simple. Jean-Claude Carrière, vous êtes un passionné d'Orient. Vous avez beaucoup voyagé, notamment en Inde. Vous avez traduit le Mahabharata, grand poème épique écrit en sanskrit, l'un des textes les plus importants de l'histoire littéraire. Et dans votre ouvrage « Contes philosophiques du monde entier », vous recensez tous les récits que vous avez découverts lors de vos échappées ou qu'on vous a racontés. Voici l'un d'eux. Il est bref, concis, et on ne sait pas d'où il vient. Il a pour titre « Père et fils ».
Parmi les plus belles histoires qu'il m'a été donné d'entendre, il en est une qui m'a été racontée par un jeune journaliste belge à Bruxelles. Il n'en connaissait pas l'origine, qu'il situait quelque part en Orient. Dans un certain pays, vivait un homme très riche et un homme très pauvre. Ils avaient chacun un fils. L'homme très riche monta avec son fils sur le sommet d'une colline, lui montra d'un geste le paysage tout autour d'eux et lui dit « Regarde ». Un jour, tout cela sera à toi. L'homme très pauvre monta avec son fils au sommet de la même colline, lui montra le paysage tout autour et lui dit simplement « Regarde ».
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Yeah. صعن عاقل وسبدع دفروش
Maintenant les vers de Rumi, grand poète de langue persane dont vous avez traduit un recueil avec votre femme Nahal Tajadod et votre belle-mère Maïn Tajadod. Il y a un poème que vous aimez tout particulièrement. Il est extrait du livre de Cham de Tabriz. D'où je suis, moi, et la tristesse et la joie de ce monde doux. D'où je suis, moi, et la tristesse de pluie et de gouttière. Pourquoi ne pas fondre et aller jusqu'à mon univers premier, d'où est le cœur, et ce spectacle de dépotoir, ce monde doux. Tu as dépassé de 1000 ans doute, raison et illusion. D'où es-tu, toi? Et les sottises de celui qui doute sont doux. 1000 clameurs nous sont venues de l'extrême sommet du ciel. Toi, tu as tenu le silence sans demander, ces cris sont doux. Comme l'homme s'est transformé hors du paradis en serpent, chez les scorpions et les serpents, ta sûreté, elle vient d'où? Ô cœur, va au début, va jusqu'à la tête du fil, écoute le récit qui dit d'où le ciel et la corde d'où. Apporte le premier vin cru et donne-le aux hommes mûrs, d'où je suis moi. Et la tristesse du crétin cocu, elle est d'où? Entre dans la maison du vin, du dedans referme la porte, d'où es-tu, toi? Et le bonheur et le malheur des hommes, d'où? Rejette la cupidité, puisque ton existence est longue. Toi, marque de la vérité, ses bornes, ses frontières, d'où? La mort casse la cage, mais elle ne blesse pas l'oiseau. D'où est la mort? Et de l'oiseau qui ne meurt pas, la plume, d'où? Silence, car tu dis beaucoup, et personne n'a entendu de quel toit nous vient ce tambour, et cette parole vient d'où? Le poète Rumi était un fervent lecteur de contes soufis. Un texte fut notamment pour lui une référence absolue. Il s'agit de la Conférence des oiseaux du persan Farid al-Din Attar. Il écrit cette allégorie au XIIe siècle. L'histoire en deux mots. Une trentaine d'oiseaux se mettent en quête du mythique Simorgh dans le but d'en faire leur roi. Conduits par une huppe, les oiseaux s'embarquent dans une aventure qui va leur dévoiler le sens de l'existence. En 1979, vous adaptez ce très beau texte pour le théâtre. Et c'est d'ailleurs Peter Brook qui le met en scène à Avignon. Voici un extrait du chapitre « Dans le désert ». Je ferai la huppe, le héron, le moineau et la colombe et vous ferez l'ermite. Tu es toujours là ?
Toujours.
Et dis-moi, as-tu trouvé la réponse ?
La réponse à quoi ?
À la question que tu te posais.
Non, je n'ai pas trouvé la réponse.
Mais quelle est cette question ? Mais oui, quelle est cette question?
Vous voulez vraiment la connaître?
Mmh.
Eh bien, écoutez-moi. J'étais, je pense, un homme assez honnête. J'avais une femme et quelques enfants. Depuis quelque temps, j'étais tourmenté par une violente envie d'aubergines. L'envie de manger des aubergines ne me quittait ni le jour ni la nuit. Et en même temps, quelque chose me disait que si je mangeais des aubergines, un malheur allait me frapper. Un grand, un terrible malheur. J'essayais de penser à autre chose, à mon travail, à ma famille, à des oranges, à des moutons. Mais toujours l'aubergine revenait. L'aubergine. Finalement, quand vous pensez, mon désir me subjuga. Ma mère me trouva des aubergines. Elle me les fit cuire très bien et je commençais à les manger. Mais à peine avais-je mangé la moitié d'une aubergine qu'on frappa à la porte, un homme entra et il posa par terre la tête de mon fils. On venait de couper la tête de mon fils. Alors, j'ai décidé que je passerai le reste de ma vie à chercher le rapport qui existe entre le fait de manger des aubergines et la tête coupée de mon fils. J'ai tout abandonné, absolument tout, je suis venu ici et depuis ce jour, je cherche la réponse à cette question.
Et tu n'as rien trouvé ?
Rien.
En attendant, comment vis-tu dans le désert ?
Ben, je réfléchis, comme vous voyez.
Il reste un instant silencieux. Avec un peigne assez grossier, il peigne sa longue barbe. Tout à coup, la colombe se met à rire. L'ermite la regarde avec surprise et lui demande
« Pourquoi ris-tu ? »
« Je ris parce que je sais pourquoi. »
« Pourquoi quoi ? »
« Pourquoi tu n'as pas trouvé la réponse ?»«
Et pourquoi je n'ai pas trouvé la réponse ?»«
Parce que tu ne penses pas à ta question. »«
Moi ? Mais je ne pense qu'à ça. » »«
Erreur. Tu ne penses qu'à ta barbe. »
Tu as raison. Je vois que tu as raison. Tu as absolument raison. Hein. Écoute, un jour, j'étais ici depuis quelques mois, un an peut-être, quand tout à coup, par terre, j'ai vu quelque chose qui brillait. Une pierre qui brillait. Je l'ai ramassée, tenez, la voici. C'est du mica.
Il montre la petite pierre qui lui sert de miroir pour peigner sa barbe.
En me regardant dans ce mica, je vis que j'avais une barbe magnifique. Alors, vite! Je ramassais un bout de bois, je le taillais pour en faire un peigne et je me mis à soigner ma barbe, à peigner, à entretenir ma barbe.
Il s'énerve au fur et à mesure qu'il parle. Il devient furieux contre lui-même.
Et vous avez raison. Je ne pensais plus qu'à ma barbe. Avant, je ne pensais qu'à l'aubergine et retiré dans le désert, je ne pensais plus qu'à ma barbe. Toute ma vie était consacrée à ma barbe. C'est fini, vous allez voir, je vais l'arracher, cette sale barbe, cette barbe maudite, je l'arrache, je la jette, le vent l'emporte, bientôt je n'aurai plus de barbe, plus du tout, plus un poil de barbe. Pourquoi ris-tu ?
Pourquoi je ris ? Parce que maintenant encore, tu ne penses qu'à ta barbe. Restons en Orient. Après l'Iran, partons pour le Japon du XIe siècle, en plein cœur de la civilisation de Heian. Une dame d'honneur de la cour, proche de la princesse Sadako, a tenu un journal pendant des années. Elle s'appelle Sei Shonagon, et ses notes de chevet sont devenues aujourd'hui un incontournable de la littérature japonaise. Passionnée de poésie, Sei Shonagon écrivait en cachette dans sa chambre, racontant son quotidien. Ses humeurs, ses goûts, ses joies et ses peurs. C'est l'un de vos livres préférés. À vous l'honneur, Jean-Claude Carrière.
Chose désolante. Un chien qui aboie pendant le jour. Une nasse à poisson au printemps. Un vêtement couleur de prunier rouge au troisième ou au quatrième mois. Une chambre d'accouchement où le bébé est mort. Un brasier sans feu, un conducteur qui déteste son bœuf, un savant docteur à qui naissent continuellement des filles. Chose peu rassurante, la mère d'un bonze qui est parti pour 12 ans vivre en reclus dans la montagne. On arrive à la tombée de la nuit dans une maison où l'on n'a pas l'habitude d'aller. Comme on ne se soucie pas de se mettre en évidence, on ne fait pas de lumière. On va pouvoir s'asseoir à côté des gens qui sont là sans les connaître. Un bébé qui ne parle pas encore se renverse en arrière et crie en se débattant si quelqu'un veut le prendre dans ses bras. Manger des fraises dans l'obscurité. Une fête où l'on ne connaît personne. Choses qui font battre le cœur. des moineaux qui nourrissent leurs petits. Passer devant un endroit où l'on fait jouer de petits enfants. Se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfums. Même quand personne ne vous voit, on se sent heureuse au fond du cœur.
Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». C'est une phrase qui résume assez bien vos amitiés, Jean-Claude Carrière. Dans votre ouvrage « Désordre », vous revenez sur les rencontres déterminantes qui ont changé votre vie. Voici quelques-uns de ces amis dont vous avez croisé la route et avec lesquels vous avez travaillé, vadrouillé ou simplement discuté. Par exemple, l'écrivain argentin Jorge-Louis Borges.
Toutes mes histoires, même si elles sont fantastiques, un genre le sont, toutes ces histoires-là correspondent à des émotions profondes de moi. C'est-à-dire tout ce que j'écris est autobiographique, mais tout cela est déguisé, truqué. Ce n'est pas arbitraire, je veux dire, non ? C'est-à-dire que chacune de ces nouvelles a répondu à une nécessité de l'écrire.
En 1977, alors que je venais à peine d'aménager dans la maison que j'occupe toujours près de Pigalle, mon téléphone sonna, je décrochais et une voix sourde me dit « Allô, bonjour monsieur, c'est Borges ». Il était à Paris, il avait envie de me connaître à cause de Buñuel sans doute. Aussitôt je pris un taxi et j'allais le chercher à son hôtel. Nous revînmes ensemble, un mythe s'appuyant à mon bras pour traverser la cour. Il n'y voyait presque plus et il passa tout le reste de la journée chez moi. Dès l'entrée, alors que je m'excusais de l'état des lieux, nous étions en travaux, il me dit, parlant dans la maison, « Oui, je comprends, c'est un brouillon. » Le monde comme une chose écrite, avec un sourire. Il s'installa dans la cuisine, ma femme lui prépara du riz blanc, tout ce qu'il désirait manger, et il resta jusqu'au soir, parlant de tout et de rien, mais surtout de littérature. Il était drôle, riche de mots et d'anecdotes, assez acide par moments. Il se sentait bien, je crois. Quelque chose d'Homère mangeant du riz dans ma cuisine. Il mourut en 1986. Aujourd'hui encore, je revois cet aveugle, assis en bout de table, le visage pâle, légèrement relevé, lumière qui ne s'efface pas.
En 1963, vous rencontrez le dramaturge anglais Peter Brook. Ensemble, vous écrivez et vous découvrez le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans les années 70. C'est un compagnon de plume, mais aussi de route. Exploration de toutes sortes, expérience, découverte du monde à travers le théâtre et du théâtre à travers le monde. Intuition soudaine, pressentiment, sentiment permanent de l'éphémère, éloge de l'inachevé et même de ce que Peter appelle le théâtre impur. Loin de toute rigueur dogmatique, curiosité sans fin, démolition rapide des certitudes, ouverture au hasard, au jeu, au rire. Je ne peux pas dire en quelques pages tout ce que Peter a ajouté à ma vie. Mes plus beaux souvenirs, peut-être, sont ces voyages en Inde que nous fîmes ensemble à la recherche du Mahabharata. Il m'est arrivé de partir avec Peter le matin de bonne heure, seul dans une voiture avec un chauffeur, et de nous abandonner au hasard. Tantôt nous nous arrêtions, ici ou là, sur la route, pour visiter une ruine inattendue, nous inviter à un mariage de rencontre, réparer un pneu défaillant. Après quoi nous repartions et nous parlions pendant des heures de tout et de rien. Zigzag de la pensée, joie de la parole légère, image d'un bonheur de l'esprit, toujours en quête, toujours en mouvement.
Thank you. est-ce que vous croyez qu'il faut toujours être non-conformiste?
Ça, je crois que, oui, c'est mieux, c'est, la, c'est beaucoup mieux ne pas être conformiste, ne pas accepter, parce qu'alors il ne peut pas avoir de progrès, on ne peut pas avoir un progrès sur soi-même, on peut pas, c'est une limitation à la connaissance de la vie, et le conformisme.
Et pas de censure.
C'est ça.
Merci, Louise Buñuel.
Quand vous rencontrez Louise Buñuel, vous avez 32 ans. Vous avez déjà publié votre premier roman, Lézard. Vous avez collaboré avec Pierre Etex. Et vous croisez la route du réalisateur et scénariste espagnol avec lequel vous allez signer quelques chefs-d'œuvre, Belle de jour, La Voie lactée ou encore Le fantôme de la liberté.
Comment vous sentez-vous, mon
vieux? Ni mieux ni pire.
Vous avez apporté vos analyses?
Oui.
Vos analyses sont meilleures que les miennes.
Voyons les radios.
Oui, il y a une petite tâche là. Bon, il faudra peut-être refaire une radio pour être sûr.
Et ces petites choses blanches là?
Oh, ça c'est rien, ce sont les veines. Une chose, j'aimerais bien vous pratiquer une petite boutonnière.
C'est une opération?
Juste pour voir.
Quand?
Demain, ça vous irait?
Ah, écoutez, Pierre, je suis plus un enfant. Alors si j'ai quelque chose de sérieux, vous pouvez me le dire.
J'aime les malades comme vous. Vous avez un néoplasme. C'est une prolifération des cellules. Ou si vous préférez, un cancer.
Comment?
Vous avez un cancer du foie. Mais aujourd'hui, vous savez, ces choses-là... Cigarette?
On me demande souvent, est-ce qu'il a été votre maître? Oui, bien sûr. Je n'étais qu'un jeune scénariste et romancier quand je le rencontrais pour la première fois en 1963, à l'occasion de l'adaptation du journal d'une femme de chambre, d'Octave Mirbeau. Déjà un monument de cinéma. Comment parler à un monument? Comment ne pas s'incliner devant lui? Comment ne pas recevoir son influence? Comment ne pas suivre ses conseils, ses idées? Une influence qu'il m'est impossible d'analyser ou tout simplement de décrire, inutile même d'essayer. Il a bien fallu qu'il existât entre nous quelque accord secret, indéfinissable, presque musical, pour nous amener à travailler ensemble si longuement. Mais c'est en vain que je chercherai quelles étaient les notes de cet accord. Et cela d'autant plus que le personnage paraissait profondément contradictoire, brutal et bon, hostile et bienveillant, espagnol et universel, bourgeois et révolté, tragique et rigolard, surréaliste et bien construit. Souvent, pour ne pas dire chaque jour, en écoutant les nouvelles d'un peu partout, je me rappelle ce qu'il disait. « Le monde est irrationnel !» Une formule toute faite, pensais-je, facile, vite dite, d'origine sans doute surréaliste. Maintenant, en vieillissant, je vois qu'il y a là quelque chose de vaguement vrai. Sans doute l'univers n'a-t-il aucune obligation de suivre les lois de notre raison, de nous apparaître logique et, par conséquent, prévisible. Mais nous voulons croire qu'il les suit, ces lois, qu'il leur obéit, que nous pouvons prévoir les décisions des atomes et que le comportement humain, minuscule parcelle de gouttes d'eau dans les océans, s'accorde au fonctionnement de ce que nous avons appelé nous-mêmes notre raison. Non, rien de tout cela ne fonctionne. Nos crises de colère et nos coups d'État sont aussi imprévisibles et injustifiés que les tsunamis, que les éruptions volcaniques et que la plupart des révolutions. Nous vivons raisonnablement dans la déraison. Nous défilons en bon ordre dans le chaos. Ce qui ne va pas sans désillusion, sans faux pas, sans coup de bâton. Alors, comment vivre? Chacun selon sa morale, aurait dit Louis, qui ne se mêlait pas de prêcher, surtout pas. Nécessité d'une ligne forte dans le désordre et obligation de s'y tenir. Invention d'une morale plus stricte, à coup sûr, moins sujette à modulation que la morale conventionnelle, officielle, qui offre nécessairement un amalgame de compromis. C'est pourquoi, peut-être, sans prétendre me comparer à lui, Louis reste aujourd'hui mon maître avec deux ou trois autres. Non pas que je le suive en toutes choses, il s'en vaut de beaucoup. Le maître véritable n'est pas un modèle à imiter, un prêt-à-porter. Il recommande même que nous nous insurgions contre ce qu'il nous dit ou ne nous dit pas, que nous rejetions son exemple. Le maître est évidemment celui de qui, dans le travail, nous avons reçu l'influence. C'est mon cas, chaque jour. Il n'est pas une scène que j'écrive sans me souvenir de lui. Qu'en eût-il pensé? Grimace ou sourire?
En 1968, vous êtes au Mexique avec Buñuel en train d'écrire le scénario de La Voie lactée et un certain Milos Forman vous appelle et vous propose de le rejoindre à New York pour travailler sur l'adaptation de la comédie musicale Hair. Vous faites votre valise et rejoignez le cinéaste tchèque en Amérique. Nous vivions le mois d'avril 1968. Émeute à Harlem, assassinat de Martin Luther King, inquiétude, troubles divers. Il se trouva que le bal des pompiers, que Milos venait d'achever en Tchécoslovaquie, fut sélectionné au Festival de Cannes. « Allons donc en France », me dit Milos, réjoui de cette sélection. Nous embarquâmes à bord d'un transatlantique, le Queen Elizabeth, le premier, l'ancien, celui d'avant la guerre, qui effectuait cette année-là sa dernière traversée. 4 jours, 4 nuits d'océan, arrivée à Cherbourg, passage rapide à Paris, descente à Cannes, où Louis Malle officiait comme président du jury. Se déchaînent alors les événements que nous connaissons. Truffaut et Godard déboulent en porteurs de messages, solidarité avec les étudiants en révolte. En révolte contre quoi? Nous n'en savons rien. Personne n'en sait rien. Mais il faut faire quelque chose. Absolument. Proclamation, réunion ardente, prise de parole, bousculade, colère.
Nous demandons à nos 3 camarades qui font partie du jury d'en envoyer 1 en délégation, ramenez-le.
Nous souhaitons que le festival s'arrête.
Non! Oui, mais...
Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling les gros plans.
Et alors, le festival est annulé. Milos a le cœur brisé, pour une fois qu'il a un film sélectionné. Nous remontons à Paris avec Claude Berry et son beau-frère, le tumultueux Jean-Pierre Rassam. Une bonne bouffe chez Bocuse, au passage, au cas où nous vivrions vraiment la fin du monde. Un dernier bon repas au moins. Un autre de vos amis proches a pour nom Bernard Allaire. C'est un comédien suisse, un pitre, un mime, bouffon ou histrion. Un homme qui appartient, selon vous, à la tradition des oubliés.
C'est pas la première fois que j'ai des ennuis avec mon argent. L'autre jour, déjà, ça s'est produit, j'arrive à la banque, le responsable qui me dit « Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous n'êtes pas content de nos services pour avoir liquidé votre compte ?» Je vous dis, mais j'ai pas liquidé mon compte. Non, pas vous, personnellement. Mais votre argent, ce matin, il a vidé le compte, il est parti.
Avec lui, vous fréquentez les cabarets du quartier Mouffetard et vous écrivez 6 spectacles. Au printemps 2009, il décède. Et vous êtes présent à ses funérailles pour lui rendre cet hommage.
Il résista longtemps. S'arrêta de fumer, reprit, surmonta plusieurs infarctus et crises diverses. Il portait un pacemaker. Ne trouvant plus la force de maintenir un spectacle pendant 2 heures, il se contentait de petites formes dans de petits théâtres. Quand il mourut, sa femme me demanda de dire quelques mots. Étrangement, l'oraison funèbre est une de mes spécialités. J'ai prononcé celle de Jean Carmet, de Louis Malle, de Robert Laffont, mon premier éditeur. J'aimerais tellement prononcer la mienne. Pour Bernard, je me tenais debout près de son cercueil, dans un temple de Genève. En face, ses amis, sa famille et des inconnus. Une main posée sur le cercueil, j'ai improvisé notre dernier sketch, comme s'il m'entendait et me répondait. Reprenant une idée que nous avions développée quelques années plus tôt, j'ai joué l'homme qu'on enterre et qui a encore 1000 choses à faire ici-bas. Il ne peut pas partir comme ça, ce n'est pas possible. Encore un moment, s'il vous plaît. Il ne peut pas sauter ce rendez-vous chez le dentiste qu'il a eu tant de mal à obtenir, ni sans remercier Madame Huntel pour sa très charmante soirée et ses papiers à signer chez le notaire et sa réservation au restaurant et ce chèque à encaisser et ainsi de suite. Je ne me rappelle plus les détails, je sais que ce temple de la vie de tous n'avait jamais connu enterrement plus gai. Et il me sembla que Bernard riait encore, tandis qu'on descendait sa caisse.
C'est votre ami Pierre Jourdan qui vous présente un jour le danseur Rodolphe Nureyev. Vous vous en souvenez comme d'un homme extrêmement avide de connaissances et d'émotions nouvelles. Voici le récit d'une soirée que vous avez passée en sa compagnie.
Alors qu'il dirigeait la danse à l'Opéra de Paris, il invita Jérôme Robbins à venir régler la chorégraphie du Jeune homme et la mort avec la magnifique Sylvie Guillen. Après la représentation, nous dînons un petit groupe dans le restaurant de l'Opéra. Robbins est à une table avec la danseuse, je suis à celle de Rudolf. Je lui demande en parlant de Sylvie que j'ai trouvée superbe, irréelle, comme glissant dans l'air. À ce niveau-là, que peut-elle encore gagner? Il me répond ce que gagne un bon vin en vieillissant. Le souper terminé, alors qu'il est déjà 1h du matin et qu'il a ses classes à 8h le lendemain, il demande à Sylvie de l'accompagner chez lui, car il veut lui montrer quelque chose. Je demande à les accompagner, on m'accepte, nous voici dans le vaste appartement du Quai Voltaire, tout tendu de vieux cuir de cordoue. Rudolphe, sur un magnétophone, met une cassette de Margot Fontaine et il montre à Sylvie Guillem 10 fois, 20 fois, un seul mouvement du bras et de la main. Ils sont assis tous les deux sur le sol, devant la télévision, ils parlent à voix basse, ils répètent l'un et l'autre le même geste, parfaitement obsédés, possédés, oubliés de l'heure, de la fatigue et du reste du monde. Seul importe pendant plus d'une heure au milieu de la nuit ce petit geste du bras et de la main. Je les regarde avec étonnement, comme si j'étais moi-même un élève. Le travail, même à ce niveau-là, la technique toujours, premier support de la beauté. Sans elle, rien. Ne jamais arriver, ne jamais se dire satisfait, ne jamais atteindre son but, chercher encore, surtout après un triomphe.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps pressé, c'est parti remise, pour aller danser. La 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 la. Autant qu'il nous semble raisonnable et fou, nous irons ensemble au-delà de tout. Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu. Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu. La 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 la. Laisse-moi sans crainte venir à genoux, goûter ton absinthe, boire ton vin doux. Aux rires et plaintes, aux mots insensés, la folle complainte s'est vite élancée. La 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 la. Défions le monde et ses interdits, ton plaisir inonde ma bouche ravie. Vertu ou licence, par Dieu je m'en fous. Je perds ma semence dans ton sexe roux. La 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 la. Aux pierres de lune, aux monts et merveilles, voilà que ma plume tombe de sommeil. Et comme une louve aux enfants frileux, la nuit nous recouvre de son manteau bleu. La 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 la. Rebelle et soumise, paupières lassées, remets ta chemise, belle fiancée. L'amour est cerise et le temps passé, c'est parti remise pour aller danser. La 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 la. La 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 la.
Nahal Tajadot, qu'est-ce qui vous reste de votre maison d'enfance comme impression, comme souvenir?
Comme pour tout le monde, la maison d'enfance n'existe que dans notre tête. Même si, pour nous, Iraniens, il y a eu une rupture, de toute façon, je crois que la maison d'enfance est qu'une imagination, qu'une fiction, je dirais.
Jean-Claude Carrière, il y a une rencontre que vous n'oublierez jamais, aussi, c'est celle de votre épouse, Nahal Tajadot. Nous sommes en 1989. Nahal Tajadod, iranienne, titulaire d'un doctorat en langue et civilisation chinoise, travaille pour le magazine Le Courrier de l'UNESCO et elle vient vous interroger sur la notion d'épopée.
Je la reçus chez moi et je vis arriver une jeune femme brune, fort belle, souriante, qui prononçait parfaitement le mot Mahabharata en mettant même les accents toniques aux bons endroits, ce qui constituait une rareté. Elle me dit en un français parfait sans accent qu'elle était iranienne et j'appris un peu plus tard ce même jour en bavardant qu'elle était également titulaire d'un doctorat de langue et civilisation chinoise après des études de haut niveau à Paris. Nous nous sommes revus bien sûr souvent, nous avons travaillé et voyagé ensemble et elle m'a conduit pour la première fois dans son pays où je devais revenir souvent. Elle est aujourd'hui ma femme. Pénétrer un autre monde à l'aide d'une personne appelée à partager votre vie est une expérience qui protège à jamais de toute tentation de rejet ou tout simplement de dédain. Il ne s'agit plus d'un objet extérieur, d'une sorte de livre de monument ancien, imposant, mais difficilement traduisible, devant lequel vous passez en haussant les épaules et en vous disant « je peux très bien vivre sans ça ». Non, il s'agit de quelque chose de vivant. D'une histoire qui s'incarne dans une femme, dans la famille de cette femme, dans les lieux où elle a vécu, dans les personnes et les choses qu'elle a connues, dans le chemin compliqué de ses souvenirs, de ses émotions. Elle devient le pays lui-même. Chaque fois que j'entends son pas s'approcher de moi, je me dis que ma chance, ma fortune, comme l'appelaient les Romains, n'attendait qu'elle.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Philippe Palares. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki. Merci infiniment, Jean-Claude Carrière.
De rien, monsieur.
Bon après-midi et à la semaine prochaine.